Je parle tout bas pour ne pas me réveiller.
Accroche-toi bien.
Ça suffit.
Dans tes rêves.
C'est impossible.
Vous êtes en retard pour le thé.
Seulement si tu crois que c'est impossible.
Dans tes rêves.
Dans tes rêves, il y a un sociologue allongé sur un divan qui s'engueule avec son psy qui se fait appeler Freud. C'est plutôt tendu entre les deux hommes. Tout est social, dit le patient. Faux, corrige Freud, tout est sexuel. Tu n'as pas le monopole des rêves, réplique le sociologue. Le rêve n'est que le gardien du sommeil, balance Freud. Fin de la séance, 120 euros, non remboursé par la sécu. Tout n'est pas si social, ricane Freud. Le sociologue signe un chèque en blanc. À part ça, tout va bien. Dans tes rêves, il y a deux amis frangines qui se racontent leurs souvenirs d'ado. Le billet de 20 francs piqué à maman et l'année les garçons à la télé, la victoire de la France black blanc beurre où tout semblait possible avant l'an 2000. Depuis, 20 balles valent 20 euros et l'an 2000 semble déjà si loin. Dans tes rêves, il y a le pays de ton enfance et celui de l'utopie. Il n'y a pas de morale à la fin, tout est possible. Tu deviens un super héros de la vraie vie. Alors, si on écoutait un peu plus ce fameux rêveur qui sommeille en nous.
Dans tes rêves.
France Inter.
Laurence Garcia.
Et pour cette nouvelle rêve partie, une rencontre d'imaginaire dont je me suis inspirée, mon premier sociologue, prof de sociologie à l'École Normale Supérieure de Lyon, essayiste, enquêteur onirique, l'interprétation sociologique des rêves, c'est son dernier essai aux éditions de La Découverte, avec en couverture un peigne, un lit, un verre, une allumette, un tapis, le fameux tableau de René Magritte, Les Valeurs Personnelles. Bonjour, bonsoir Bernard Lahire.
Bonsoir.
Vous n'avez jamais rêvé de vous engueuler avec Freud?
Non, vraiment jamais. Ceci dit, je ne me rappelle pas toujours de mes rêves.
Oui, pareil.
Même assez rarement.
Vous dites que vous êtes un mauvais rêveur.
Mais je travaille trop. Donc dès le matin, quand on est happé par le travail, c'est plus possible. Il faut vraiment être très tranquille pour noter ses rêves, s'accrocher aux petites bribes de souvenirs de rêves du début du réveil. Si on fait ça, on a une chance de le récupérer. Sinon, non. Donc les gens qui sont un peu plus tranquilles que moi y arrivent beaucoup mieux.
La France qui se lève tôt, ce n'est pas la France qui se souvient de ses rêves, en fait.
S'ils se lèvent tôt et qu'ils prennent le temps, ils peuvent, mais s'ils se lèvent tôt et qu'ils doivent tout de suite aller travailler, ou qu'ils sont pris par des soucis immédiats, c'est pas possible, ouais, c'est difficile. Ouais. Vraiment très éphémère un rêve. Hein.
On en parlera de ça. Enfin, comme dirait Freud, vous refoulez vos rêves, vous qui travaillez dessus depuis 20 ans. Hein.
Moi, je crois pas que je refoule, mais je... Il faut travailler.
C'est ça, les rêves, ça se travaille aussi.
Oui. Ouais. Il faut prendre l'habitude de le noter, souvent.
On va voir si elle est aussi inspirée par ses rêves ou si elle est une mauvaise rêveuse. Elle est écrivaine, réalisatrice, romancière des idéaux romantiques d'ado, aux réalités plus factuelles, comme on dit, d'adultes, les rêves éveillés. Millennium Blues, c'est son dernier roman et c'est chez Fayard. Bonjour, bonsoir, Faiza Again.
Bonsoir.
Dans mes rêves à moi, un peu inventés, je me suis librement inspirée de votre dernière fiction, un récit initiatique, finalement. Comme l'héroïne de votre roman, vous êtes nostalgique des billets de 20 francs ?
Oui, en fait, je pense que je suis plutôt plus nostalgique de mes 15 ans que de ce qui se passait autour de mes 15 ans, si je vais être très honnête avec vous.
L'an 2000 ?
Ouais, exactement, l'an 2000. Et je pense que tout ce que j'ai fantasmé dans mon adolescence, de ce qui allait possiblement arriver, du monde que j'allais connaître à l'âge adulte, et finalement... On est toujours déçus quand on justement les gens qui rêvent beaucoup, souvent c'est ceux qui sont le plus déçus.
D'où le fameux blues, hein, le blues.
Absolument.
Le blues millennium. Alors c'est votre première rencontre dans la vraie vie, une écrivaine, un sociologue. Cela dit qu'il y a un imaginaire assez éclectique, hein. Vous êtes plutôt hors chapelle, hein. Vous vous intéressez à l'art, aux écrivains. Il y a eu un essai, La condition littéraire. Pas enfermé dans une chapelle.
Non, en tout cas pas dans une thématique, parce que j'ai travaillé sur Kafka aussi. Ça m'a beaucoup intéressé. D'ailleurs, c'était un pont pour arriver au rêve. Kafka est quelqu'un qui écrivait ses rêves. Il en a laissé 70 à peu près.
Ah oui.
Et en fait, il s'est inspiré de ses rêves, du langage de ses rêves, pour écrire beaucoup. En utilisant des métaphores, en littéralisant la métaphore, comme on dit. C'est un gros mot, mais pour dire qu'on prend au pied de la lettre une métaphore et on en fait une histoire. Et c'est assez, assez fascinant. Donc ça a été vraiment, d'ailleurs, un lien avec ce travail sur les rêves.
De Kafka aux rêves.
Oui.
Vous vous en souvenez, vous, pas Fezagen, de vos rêves du petit matin? Est-ce que vous forciez à écrire des bribes En plus, vous avez une écriture très imagée.
Ouais, mais c'est vrai que je les note pas. C'est quelque chose que j'ai jamais pris le temps de faire. En règle générale, je me souviens de mes rêves. Parfois, il y a des rêves qui surgissent, des souvenirs qui surgissent. Parfois, c'est deux jours après, trois jours après, je me dis, mais j'ai rêvé de ça. Ou des choses qui se passent dans la réalité, qui me renvoient à un rêve que j'ai fait, et tout d'un coup, je me souviens. Mais c'est là, je pense que j'ai vraiment, je suis une rêveuse, je pense que je suis une bonne rêveuse, parce que je rêve beaucoup. C'est assez riche, c'est assez, des fois, absurde, des fois, c'est drôle. Enfin, voilà. Mais je les note pas. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être que je fasse.
Mais d'ailleurs, vous travaillez sur vous collectez les rêves des autres depuis 2 ans. Vous les appelez vos enquêtés, hein. Vous les appelez pas vos patients.
Oui. Bah oui, j'y tiens parce que je suis pas payé. On pourrait le dire comme ça, sur le mode de l'humour, mais je suis pas un thérapeute. Je pense que la sociologie, de toute façon, depuis que je la pratique, je sais qu'elle a des effets thérapeutiques. Parce que quand vous allez chez les gens et qu'ils se confient pendant 2 heures, 3 heures, parfois, moi, j'ai fait des enquêtes très longues, où c'était 6 heures, 9 heures d'entretien et tout ça, les gens ne restent pas indemnes. Ils nous racontent des choses qu'ils racontent pas à leurs propres conjoints, à leurs enfants, aux proches, aux amis, etc. Et donc, ça les aide en fait à y voir clair un peu en eux. Ils n'ont pas l'habitude de dérouler comme ça. Nous, on est là et on les écoute. Et souvent, ils nous disent merci. Moi, j'ai toujours été étonné dans ma pratique de sociologue. On vient prendre du temps aux gens. Et il termine en disant merci.
Combien je vous dois? Mais non, merci.
Pas combien je dois. Et donc, voilà, pour moi, c'est pas des patients. Je sais qu'il y a des effets thérapeutiques, mais ça reste des enquêtés. Et je leur explique que ça a un but scientifique, de comprendre pourquoi ils rêvent de ce dont ils rêvent.
Alors, en toile de fond, vous, de votre fiction, Fezagen, qui est une histoire d'amitié, une saga d'amitié entre deux jeunes femmes, voilà, sur 20 ans, vous les prenez à des âges différents, selon des événements aussi qui ont marqué la France dans des ordres mélangés, pas forcément chronologiques. En toile de fond, il y a, les rêves éveillés, les idées qu'on peut avoir à 20 ans et qu'on perd à 35. Ça, c'est une matière qui vous travaille depuis un petit bout de temps aussi, hein, depuis l'époque de Kif Kif Demain.
Ouais, peut-être que je me suis jamais vraiment autorisée à avoir des rêves éveillés, ce qu'on appelle ambition, mais c'est ça en fait, avoir des ambitions. Et les choses, elles sont un peu arrivées comme ça, sans forcément que je les décide. Et du coup, je pense que dans mes romans, je mets plutôt... J'essaie de donner en fait à mes personnages des rêves que j'ai pas, que je me suis pas permis d'avoir parfois. Donc
pas autorisé.
Ouais, pas autorisé, c'est vrai. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là.
C'est un transfert en fait aussi. Si on utilise des... C'est
probablement, ouais. Probablement. Après, je m'en rends pas vraiment compte. Là, on le dit parce qu'on est en train d'un peu analyser les choses, mais c'est vrai que, par exemple, je pense que les rêves, parfois, on ne les formule pas. C'est-à-dire qu'on se dit pas, je rêve de devenir pilote d'avion. Et en fait, il y a quelque chose qui est en nous, qui est de l'ordre de l'inconscient, qui nous conduit à réaliser ce rêve. Et on a l'impression que les choses, elles sont arrivées comme par magie, mais je suis certaine que les choses, elles sont inscrites. Et parfois, on s'en rend pas vraiment compte.
Mais c'est ça.
Ouais.
Et en même temps, ça va intéresser le sociologue Bernard Lahir, mais des rêves générationnels. Alors, vous ne l'appelez pas cette génération X, Y, Z, comme tous les sociologues peuvent nous étiqueter. Voilà, c'est la génération millénium.
Ouais.
Alors, expliquez-nous, moi j'aime beaucoup. Bah oui.
L'idée du millénium, c'est vrai que c'était... quelque chose de symbolique, mais millénium, ça vient d'un forfait téléphonique qui a été, si vous vous souvenez, je pense oui, que on avait pour la première fois la possibilité de parler en illimité, donc c'était le soir de 20h à 8h du matin et tous les week-ends.
Je s'en souviens bien, hein.
Voilà. Et moi, ce que j'ai écrit dans le roman, c'est que ce forfait millénium, il a changé notre manière de communiquer, que pour la première fois, le fait de parler de manière illimitée, ça faisait qu'on a arrêté de dire l'essentiel. Mais pour ma génération, ça a été vraiment une révolution, ce changement en fait de mode de communication. Et voilà, donc moi, ça m'intéressait de prendre ça pour incarner, voilà, cette génération.
L'imaginaire sans limite, voilà, et le fait de se parler au-delà de l'essentiel, ça cause aux sociologues, sachant que certains de vos confrères nous rangent dans les X, Y, Z, et que vous préférez l'individu au groupe, mais...
Non, les deux sont utiles. Après, c'est pas vraiment des sociologues qui ont parlé de génération X, Y, Z.
Oui, c'était plutôt les...
Oui, enfin, c'est des...
Les psys.
Non, pas forcément, mais c'est souvent plutôt des essayistes, des gens qui mettent des noms comme ça, un peu flous, où les gens se reconnaissent ou pas. Bon, moi je sais que personnellement, je me suis posé la question longtemps, puisqu'on parlait de génération, est-ce que j'appartiens à une génération ? J'imagine que vous avez dû vivre ça. On n'a pas toujours l'impression au départ de faire partie d'une génération. Après, on se rend compte qu'on a fait partie d'une génération, on a eu les mêmes pratiques, on a connu la même époque, etc. Alors c'est marqué par des changements technologiques, où il y a quand même des générations avant ou après Internet. Il y a des choses aussi
bien que ça. Évident, ouais.
C'est des choses un peu magiques. Mmh. Moi, j'ai vécu le moment où j'ai envoyé mon premier email. ça peut paraître bizarre aujourd'hui, mais c'était quand même assez bizarre.
Pas besoin
avant
de mettre
ça, c'était le fax, alors, vous voyez.
Oui, c'est, oui. Et le Minitel.
Oui, aussi.
Des rêves éveillés ou nocturnes selon les âges de la vie. Voilà pour la partition onirique jusqu'à minuit. Vous aussi, vous pouvez poster vos sons sur notre page Facebook Dans tes rêves. La rêve partie du dimanche soir de France Inter, mitonnée par le gang des rêveuses. Marie-Hélène Fauquet, la réalisation. Nadia Chouguier, la préparation. Muriel Pérez pour la programmation. Et ce soir, à la technique, c'est Pauline Laverdure. Belle soirée. C'est Marlon Williams et ce soir nous explorons les rêves éveillés de nos deux invités, le sociologue enquêteur onirique Bernard Lahire et l'écrivaine Fezagen.
Dans tes rêves.
Ça t'arrive de rêver ? Est-ce que tu seras plus tard ?
Est-ce que je serai plus tard ? Oui. Est-ce que je serai pas moi ?
Tu seras toujours toi, mais un autre genre de toi.
Laurence Garcia sur France Inter.
Et comme à chaque fois, nous explorons l'imaginaire de l'enfance, qui explique aussi qui l'on devient. Enfin, c'est pas forcément l'avis du sociologue, hein, puisque vous avez beaucoup écrit sur le fait qu'il n'y avait pas forcément de déterminisme social, familial, et que nous étions tous des hommes et des femmes pluriels. Il y a une métaphore chez vous que j'aime beaucoup. Vous comparez l'individu à une feuille de papier froissée. Pouvez-vous nous l'expliquer ?
Oui, mais alors je vais aussi rectifier ce que vous venez de dire, parce que je pense qu'il y a des déterminismes, simplement qui sont tellement compliqués que du coup les comportements humains sont pas facilement prévisibles. Ce qu'on peut vous dire en sociologie ou dans d'autres sciences, c'est la probabilité que vous avez de devenir quelque chose. On sait aujourd'hui, on a des tables de mobilité sociale, c'est un peu technique, mais on sait que quand vous venez de tel milieu, vous avez une probabilité plus ou moins forte d'arriver à tel ou tel endroit du monde social. Bon, malheureusement, ce que disent ces tables de mobilité sociale, c'est qu'on a très peu de chances de devenir un haut fonctionnaire quand on vient d'un milieu analphabète ou ouvrier non qualifié, etc. Ça arrive, mais c'est infime.
Et le papier froissé, alors
C'est que un individu, c'est le produit de toutes ses influences. Donc c'est comme si on étudie... Bon, en sociologie, on a beaucoup étudié le papier déplié, on va dire. Qu'est-ce que c'est que le protestantisme ? Qu'est-ce que c'est que les milieux ouvriers ? Qu'est-ce que c'est que les gens qui sont passés à telle période dans tel type d'institution scolaire, religieuse, politique, sportive, etc. Et puis après, on peut se poser la question de quand c'est replié dans un individu, les individus, ils sont à la fois issus d'un milieu ouvrier ou cadre ou ce que vous voulez, et puis ils sont hommes ou femmes, et puis ils sont passés à l'école d'une certaine certaine façon. Et puis, ils ont eu des relations sentimentales comme ci ou comme ça, etc. Et donc, c'est tout ça à la fois.
Oui, d'accord.
Qui fait, et quand ça se combine, ça fait de la singularité. Donc voilà, c'est un peu le papier qui est froissé. Tous les plis arrivent à l'intérieur et se conjuguent d'une manière assez particulière.
J'imagine que l'image doit inspirer l'écrivaine qui travaille sur papier aussi ou sur écran. Vous, Fezagel, je crois savoir qu'à un moment donné, vous étiez un petit peu saoulée qu'on vous étiquette écrivaine des banlieues. On vous a même comparé à la Sagan des cités. Ça vous inspire, ça, cette histoire de papier froissé,
oui, c'est très
de papier et de plis?
Moi, je suis complètement dans l'idée que, en fait, il y a des probabilités, mais qu'il y a toujours des surprises, et heureusement, parce que sinon on n'avancerait pas, c'est pas possible, quoi. En fait, c'est aussi ça, c'est aussi enlever aux gens toute possibilité de dépasser toutes les limites qui sont là. Moi, je sais que c'est vrai que c'était difficile pour moi parce que j'ai pas choisi la manière dont je devais moi me définir face aux autres, et j'étais prisonnière d'une perception. Et ça, c'est très difficile, parce que moi, j'ai jamais dit que j'avais écrit sur la banlieue. On dit depuis 15 ans que je suis un auteur de banlieue. Moi, j'ai dit pour mon premier roman que c'était un roman sur l'adolescence, et c'était ça, à mon sens. Et en plus, je fais de la fiction, donc il y a toute cette partie de création, de après, ça plaît ou ça plaît pas, ça c'est un autre sujet, mais je veux dire, il y a toute cette dimension de recherche et d'invention qu'on m'a amputée. C'était difficile à cet égard aussi. Et puis, il y avait aussi toute la fantasmagorie autour de mon milieu social, de mes origines, etc., qui voulait que je sois cette petite fille qui a grandi en banlieue, dans des conditions difficiles. Évidemment, toute cette fantasmagorie-là, je vais pas la détailler, mais... Et là, on me sauve de quelque chose parce que je deviens romancière et que tout d'un coup, on me porte, vous voyez. Et c'était assez insupportable parce que, d'abord, on parlait pas de mon travail. Et puis, on m'avait sauvée de rien.
Parce oui, c'est que ça.
Moi, j'ai été dans une famille où j'étais très aimée, très soutenue. J'avais pas spécialement besoin de cette reconnaissance-là. Je dis souvent ça, mais c'est vrai que moi, quand j'ai vu le nom de mon père sur la tranche de mon roman, pour moi, j'étais arrivée à quelque chose. Et c'était déjà énorme pour moi. Cette reconnaissance-là me suffisait presque, vous voyez.
Ouais.
Et donc, tout ce qui m'intéresse après, c'est de faire parler mes personnages et de développer cet imaginaire et de continuer à écrire.
Mais pour revenir à vos histoires personnelles, l'un comme l'autre, Bernard Lahire et Fezagen, d'ailleurs tous les deux, vous venez d'un milieu ouvrier, vous aussi, du côté de Lyon, grandi dans les HLM aussi. Vous l'avez raconté, vous étiez le premier de la famille à accéder à l'université. Et comme on dit...
Avoir le bac.
Et avoir le bac. Donc, comme quoi, voilà. Mais et vous en parlez, c'est le terme en sociaux, comme un transfuge de classe.
Oui, c'est les gens qui ne sont pas restés dans leur milieu, ce qui est le plus probable, encore une fois. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Les cas comme nous, il ne faut pas les... Bien sûr, ils existent, mais il ne faut pas s'appuyer là-dessus pour dire, voyez, tout est possible. Tout n'est pas malheureusement possible. Et en fait, c'est parce que quand on retourne un peu sur son passé, peut-être que vous l'avez fait sur votre propre parcours, vous savez en fait qu'on sort de son milieu, comme on dit, toujours avec l'aide de son milieu. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de petites choses qui viennent vous soutenir. Moi, j'ai travaillé là-dessus. Quand j'ai commencé à faire du travail sociologique, j'ai travaillé d'abord sur les échecs scolaires, parce que ça m'interrogeait, puisque je voyais plein d'échecs scolaires dans ma propre famille. Mais après, j'ai travaillé sur les réussites scolaires improbables. Parce que je voulais vraiment relever le défi de comprendre, d'un point de vue sociologique, qu'est-ce qui arrive à des petits garçons et des petites filles, ils étaient en CE2, qui ont des parents qui ont pas les bonnes ressources, on va dire, pas beaucoup de capital culturel et de capital économique, comme on dit dans notre jargon, et qui en même temps, pour une partie d'entre eux, réussissaient très bien. Et parfois même mieux que des gamins qui étaient plus dotés familialement. Et donc, on découvre qu'à l'intérieur de la famille, il y a des ressources morales, symboliques, des parcours un peu frustrés scolairement. Moi, j'ai eu une mère, par exemple, qui était frustrée scolairement.
Donc, du coup, la génération d'après...
Qui aurait pu aller plus loin, mais qui s'est freinée, parce que c'était l'aînée, elle devait garder les frères et sœurs, etc. Enfin, c'est des histoires comme ça. Bon, mais du coup, à la génération d'après, cette énergie, elle est conservée. Voilà. Et ça, c'est très important.
Le capital culturel, ça doit vous inspirer, Fezagen.
Tout m'inspire dans ce que vous dites.
C'est pour ça qu'on vous a réunis, en fait.
Mais ouais, mais parce que c'est drôle de s'intéresser justement aux ressources autres que les ressources qu'on a l'habitude de mentionner. Et vous parlez d'une mère frustrée scolairement, et c'est exactement mon parcours. Moi, j'ai une maman qui était l'aînée d'une fratrie de 10 enfants, qui a dû arrêter l'école. Et c'est marrant parce que pour en revenir au rêve, je refais un pont, mais ma mère, c'est quelque chose qu'elle nous a beaucoup raconté. Et elle rêve jusqu'à présent, maintenant elle a 68 ans, elle rêve d'elle avec son petit cartable aller à l'école parce qu'elle a dû arrêter l'école et que c'est quelque chose qui l'a vraiment...
Faut que je vienne voir votre mère.
Là oui. Parce que c'est quelque chose qui est dans l'histoire familiale et qu'on a porté, nous, en tant qu'enfants. Donc je pense qu'on est, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a des choses qui sont inscrites en nous et qu'on avance avec ces choses-là. Ça fait partie des choses qui étaient inscrites en moi. Bon, après, j'ai sauté une classe.
Oui, bah, des CP, vous saviez déjà lire et écrire. Ouais. En regardant soi-disant La roue de la fortune à la télé. Ça, c'est vrai ou c'est romancé?
Non, c'est une vraie histoire. Je vous assure, c'est une vraie histoire. Mais en fait, on m'a pas diagnostiqué précoce, mais j'ai été précoce je savais lire. Et vraiment, je vous dis, La roue de la fortune, je sais pas si pour les auditeurs.
Si, on se souvient un peu.
Les lettres qui se retournent au fur et à mesure. Et j'ai appris les lettres. Et après, j'ai appris les mots. Et c'était quelque chose que j'avais appris intuitivement. Et donc après, je me rappelle qu'à l'école, j'avais fait un test avec une psychologue qui était hyper sceptique. Elle était persuadée que j'avais appris le livre par cœur, parce que j'avais un livre à la maison. C'était Petit ours brun. Et après, elle m'a fait lire d'autres trucs et je savais lire. Et donc c'était... Mais bon, ma mère, elle avait un peu peur parce que j'étais très petite et elle avait peur que je me fasse embêter par les grands. Donc quand on m'a proposé de sauter ma deuxième classe, elle a dit non. Mais voilà, je sais que je porte toute cette histoire aussi familiale avant.
Mais en même temps, vous le dites aussi, Bernard Lahir, il peut y avoir une émancipation individuelle. Enfin, il y a un déterminisme aussi, mais ça vient aussi des mains tendues, des bonnes rencontres, un prof, un instit. Faïza, elle a été repérée dans un atelier d'écriture par un prof. Vous, je ne sais pas si sur votre
Moi j'ai eu un prof sur mon parcours, un prof de français qui a été, alors un peu tardivement, mais quand même, c'était au lycée. Et c'est évidemment, c'est des quand on fait des études de cas de transfuge, on voit toujours comme ça des gens qui, dans l'institution scolaire la plupart du temps, mais des fois c'est des personnes qui sont dans le milieu de la culture, des voisins, des tantes, des gens qui sont très loin aussi, bon, qui interviennent et qui jouent un rôle important. Moi, je pense toujours à la lettre que Camus a écrite à son instit quand il a eu le prix Nobel. Il a pensé immédiatement à lui faire cette lettre parce qu'il lui a dit « Sans vous, sans cette main tendue, je n'aurais pas été celui que je suis. » Parce que sa grand-mère ne voyait pas l'intérêt de lui faire continuer l'école. Bon, et puis, il y a quelqu'un qui a pris les choses en main, qui a dit « Non, c'est pas possible, il y a des bourses possibles, donc il peut continuer, etc. » Et on a Albert Camus au bout du compte. Donc, ça vaut le coup quand même de se poser des questions, même politiquement, sur les aides, sur toutes les personnes qui peuvent encourager, qui peuvent soutenir, qui peuvent être là au bon moment, etc. Moi, à chaque fois que j'entends qu'on enlève des psychologues scolaires, des travailleurs sociaux, des éducateurs, ou même des enseignants qui sont pas toujours remplacés, etc., je me dis, c'est rien pour des gens qui sont dans les bonnes situations, et c'est énorme pour des gens qui ont besoin de ces soutiens permanents, de ces gratifications, de ces encouragements, etc.
Les donneurs d'énergie, comme vous dites aussi, Fezaïgen, vous, ça a été le cas aussi avec avec ce prof qui s'est dit, tiens, elle peut kiffer demain.
Mais d'abord, moi, ça m'intéresse beaucoup cette question du transfuge social, parce que en fait, je pense que vraiment, ça on a le sentiment toujours d'être pas à sa place. Et je crois vraiment que c'est quelque chose
ça revient souvent, s'autoriser, la légitimité.
Bien sûr. Mais en fait, maintenant, parce que aujourd'hui j'ai 32 ans et que je pense qu'il y a des questions que j'ai réglées par ailleurs, en termes de légitimité, mais j'ai mis du temps à comprendre que personne me l'avait donné et qu'il fallait que moi, j'accepte que c'est mon travail aussi et ces rencontres. Et voilà. Après, moi, ce que je dis souvent, mon expression souvent, c'est la réussite accidentelle. Volontairement, je le dis, mais que ma réussite, elle est accidentelle, c'est-à-dire que je suis pas une réussite qui est le produit d'un système qui fonctionne et...
De l'école ou de...
Voilà. Non. Mmh. Là, c'est un prof de français en dehors des murs de l'école qui ouvre une association, qui prend de son temps chaque mercredi après-midi pour nous, pour voilà. Et sur ma route, il y a cet homme-là.
Ouais. Il y a quand même des jolis accidents. Donc, allez, une autre histoire d'enfance rêvée, fantasmée, habitée, susurrée, chantée, c'est celle de Charlotte Gainsbourg. Thank you. C'est Ring Ring Rose, Charles Gainsbourg, et ce soir nous explorons les utopies, les rêves éveillés ou nocturnes entre deux eaux avec le sociologue Bernard Lahir et l'écrivaine Faiza Ghen.
On espère.
Laurence Garcia.
On rêve.
Sur France Inter.
On ne croit pas vraiment qu'il puisse se passer quelque chose. Un truc comme dans les films.
On rêve de tout dans cette émission, on rêve aussi bien de, il y a des rêves récurrents, de voler, de se retrouver à poil dans la rue, mais on rêve aussi de remplir son frigo, de rater un concours, d'être poursuivi par un collègue de travail. Bernard Lahir, vous vous le dites, dans des plaies à Freud, qui nous écoute certainement ce soir, tout est sociaux et la nuit, le monde social est toujours là, nous hante, oui. Et a un sens réaliste.
Oui, oui, parce qu'en fait, ce qui se passe la nuit, c'est quelque chose d'assez simple, au fond. C'est la poursuite de ce que nous vivons dans la journée. Et les choses qui nous hantent ou qui nous posent problème, en fait. C'est les problèmes qui...
Oui, c'est ça, vous en parlez comme les préoccupations et soucis.
Oui.
C'est plus le cauchemar du réel, finalement.
Oui, alors c'est pas des cauchemars au sens où on les définit, c'est-à-dire on se lève pas toujours en sueur, heureusement, et effrayé, etc. Ça, c'est la définition du cauchemar. Mais c'est quand même des problèmes qui reviennent la nuit. C'est un problème non résolu qui continue à être travaillé la nuit de manière transposée, qui est propre au rêve, au cadre du sommeil. Ça doit être forcément visuel, ou un peu kinesthésique, on a des sensations corporelles très fortes d'ailleurs, hein. Les gens disent j'ai l'impression d'être oppressé, d'avoir mal à la jambe, et ils vivent vraiment ça dans le temps du rêve. Mais c'est des problèmes, oui, qui reviennent.
Mais l'idée de les écrire, comme vous le demandez à vos rêveurs, de les décoder, les raconter sans tabou, c'est pour les résoudre ou pour s'y pencher de plus près?
Alors moi, c'est pour m'y pencher de plus près. Eux, souvent, ils le font avec l'idée que ça va les aider à avancer par rapport à des problèmes qui sont importants dans leur vie et qui les embarrassent quand même. Hein. Il y a des choses... Bon, c'est difficile d'en parler parce que, voilà, il y a des problèmes très très intimes. Ça peut être des attouchements sexuels dans la petite enfance. Ça peut être des choses plus un peu moins graves quand même que des concours scolaires ratés et qui hantent les gens 10 ans, 20 ans après, quoi. Beaucoup de choses, en fait, comme ça, qui ne sont pas résolues, qui renvoient quand même quand on rate un concours, c'est quelle est ma place dans le monde, quoi.
Ouais.
J'ai raté quelque chose, le sentiment d'avoir raté, de ne pas arriver à être aussi bien que les autres, etc. Et ça peut rester très, très longtemps dans sa vie.
Et le monde social de la compétition et de la pression qui, quelque part...
Oui, le monde social ne disparaît pas, en fait, la nuit, c'est ça. Il continue à rentrer dans nos rêves et on tricote avec les fils qu'on a trouvé la journée.
Dans votre roman Faiza Ghen, Millennium Blues, voilà, avec ces jeunes femmes qui gravitent dans des milieux plutôt populaires, hein, c'est des rêves de devenir riche aussi, d'ascension sociale, de classe moyenne, un papa qui est au RSA et qui rêve de devenir riche en achetant plein de tickets de grattage, une maman qui est fan de Sarko et de sa philosophie bling bling. On est dans des rêves très formatés aussi, du marketing libéral aussi.
D'ailleurs, c'est drôle parce que je repensais à un rêve que je faisais beaucoup quand j'étais adolescente. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ont manqué, qui ont fait ce rêve, c'est d'être enfermé dans un centre commercial où on peut prendre ce qu'on veut et tout est ouvert. Et je suis sûre que ça, c'est un rêve partagé.
Où tout est gratuit.
Tout est gratuit. Il n'y a plus aucune frustration et toutes les frustrations qu'on vit dans la vie, dans le réel, elles n'existent plus. Et souvent, je me réveille avec la sensation agréable de ne pas avoir été limité. Donc je pense que souvent, les rêves qu'on fait, en tout cas les aspirations qu'on a dans la réalité, c'est une manière de dépasser des limites qui nous sont données, quoi.
En même temps, avec l'expérience que j'ai des rêves qu'on me livre, souvent quand on rêve de quelque chose, par exemple d'une situation en supermarché, au fond, ce qu'il y a derrière, c'est rarement le supermarché. C'est toujours une métaphore d'autre chose.
Par exemple ?
C'est souvent des métaphores. Par exemple, les gens, j'ai des collègues aux États-Unis qui ont travaillé sur les métaphores du type, alors, qui sont empruntées évidemment à l'imaginaire américain de ponts qui se rompent. Des Californiens, c'est arrivé avec des tremblements de terre, avec plein de choses comme ça, il y a des ponts qui se rompent. Bon, les gens utilisent ces images-là pour parler de leur rupture sentimentale, par exemple.
En parlant de rêves féminins, Fezagen, il y a des rêves aussi qui font du bien, il y a des rêves aussi qui rassurent. Alors, comme l'héroïne de votre Millennium Blues, est-ce que, gamine, vous vous rêviez en regardant ça ? La musique est d'époque, hein, générique
ah
est d'époque,
oui, c'est
petite
c'est
maison,
original.
La petite maison dans la prairie, je ne sais pas si vous avez été biberonné à ça aussi, Bernard Laïr, voilà.
Moi, j'étais trop grand.
Oui, c'est ça.
J'avais arrêté le biberon à ce moment-là.
Votre héroïne, voilà, fantasme sur Charlene Galls, le patriarche si rassurant avec sa paire de bretelles. Ouais. Quelque part là, on est quoi dans les rêves de la famille qui rassure les valeurs du mariage. Voilà, toutes ces valeurs qui n'y sont plus forcément.
Ce qui est intéressant, moi, ce qui m'intéressait, je voulais vraiment et j'avais envie que ce personnage allait des références un peu décalées. Ça allait avec le ce que je raconte dans le roman. Lui, il incarne. Lui, c'est vraiment lui. Il incarne ce qu'est le père. C'est-à-dire que vraiment,
vous souvenez quand même.
Image idéalisée. Elle le décrit. Elle dit il a de la terre dans les ongles. Il a porté le même pantalon toute sa vie parce qu'il est dans le sacrifice. Donc il y a vraiment ces trucs hyper accentués. Et donc je finis en disant on n'imaginerait pas Charlene Galls dormir, faire la grasse mat pendant que Caroline va travailler pour remplir le frigo. Donc c'était vraiment plutôt dans ce qu'il incarne et dans le décalage en fait entre ce qu'elle vit. C'est ça qui est intéressant dans les rêves et dans les ambitions et dans les idéaux, c'est le décalage avec la réalité. Moi, ça qui m'intéresse. Voilà.
Vous les retrouvez, vous, dans les récits de rêve, Bernard Laïr, les grandes thématiques, les valeurs refus, qui se pètent la gueule ou pas
Oui, forcément, on retrouve ces valeurs-là, mais on retrouve surtout les supports. Alors, ce qui est assez étonnant, si vous lisez l'interprétation des rêves de Freud, il parle de pièces de théâtre, de références littéraires, etc. Mais il avait affaire à une société très très cultivée, qui sortait au théâtre ou à l'opéra, etc. Et ça rentrait dans les rêves. Et aujourd'hui, nous, on trouve beaucoup plus. Moi, j'ai des rêveurs qui rêvent avec des structures de manga, d'autres avec des films, des structures de films d'action. Il y a rien de mieux que le cinéma pour les rêves. Mmh. C'est un support formidable parce que vraiment le rêveur a besoin de visualiser. Il a une limitation de ses moyens et donc tout ce qui est visuel et qui peut l'aider à travailler un problème de manière très efficace, il le prend quoi.
Ouais.
Donc le cinéma, la bande dessinée, tout ça rentre allègrement dans les rêves.
C'est marrant parce que Fezagen, dans cette saga où voilà ce qui passe le millénaire finalement, vous évoquez les événements du 11 septembre, vous évoquez la victoire de la France Black Blanc Beur, et forcément le social traverse aussi la petite histoire, la grande histoire, les idées aussi qui évoluent des personnages, enfin de nous tous.
Moi, ce qui était intéressant, c'était pour moi de faire résonner les événements qu'on a tous vécus, les événements collectifs des 15-20 dernières années, avec des événements intimes. Mmh. Ce que je trouve intéressant, c'était vraiment de faire se répondre des chocs. Je pense par exemple au premier tour des élections présidentielles de 2002. Pour les gens de ma génération, moi j'avais 17 ans, mon personnage est un peu triché, elle en avait 18, donc c'est sa première
premier vote, ouais.
Et je le raconte comme une première fois amoureuse, quoi. Donc c'était vraiment ça qui m'intéressait, moi, c'est de faire se répondre les choses. Parce que du coup, même si c'est elle singulièrement qui vit ça, mon lecteur, je pense que tout le monde se souvient où on était le 11 septembre 2001, au moment où la France a gagné la Coupe du Monde, ou à ce moment-là, quoi. Donc, c'est une manière de participer.
L'imaginaire collectif, forcément, la résonance. Après, oui. C'est peut-être le travail du sociologue de démêler les fils, non?
Mais je trouve ça. Faïza vient de donner une définition de ce que j'appelle la sociologie à l'échelle individuelle. C'est-à-dire que pour moi, la sociologie, elle peut progresser si elle arrête de regarder les choses en surface. Si on est uniquement dans des dates, dans des effets d'époque un peu généraux comme ça, on comprend pas que ça touche les gens. Parce que, justement, c'est les échos que tous ces événements extérieurs font par rapport à nos vies intimes. C'est un mélange d'intime et de politique. Il n'y a, ouais, pas d'écart. Et du coup, le rêveur peut s'approprier en fait des événements qu'il n'a pas lui-même vécu, mais qui font écho à des peurs personnelles dans sa vie intime à ce moment-là. Voilà. Donc c'est un brassage permanent entre l'intime et le politique.
Des rêves de peur de futur, de demain, hein. Il y en a pas mal aussi dans votre récit, Fezagen. Dans la vraie vie, même si je sais que le rêve pour vous, le sommeil, est une vraie vie, mais faut peut-être renouer justement enfin avec le kiff-kiff demain, quand même. Hein.
D'ailleurs, dans le kiff-kiff demain, la phrase la plus importante que j'ai écrite dans ce roman, il y a 15 ans maintenant, c'est l'avenir, ça nous inquiète, mais ça devrait pas parce qu'on en a peut-être pas. En fait, ça a l'air hyper, mais en fait, ça a l'air très pessimiste, mais c'est optimiste parce que c'est une manière de vivre le moment présent.
Dans tes rêves.
Et il ne veut rien comprendre. Il rêve des choses impossibles. Mais pourquoi impossibles? Puisque je les rêve, ces choses.
Laurence Garcia sur France Inter.
Pas mal, dit Bernard Lahire. Il vous plaît ce petit dialogue? Avec Fezagen, il est bientôt minuit. Et comme à chaque fois, je demande à mes invités, pour vous plonger dans votre noir intérieur, de fermer les yeux. Allez hop, on vous aide. Vous me répondez les yeux fermés, le micro est devant votre bouche, je commence par vous. Bernard Lahire, si vous pouviez, voilà, dans vos rêves les plus fous, recroiser ce petit fils, ce gamin d'ouvrier, transfuge de classe, comme vous dites, avec du recul, qu'est-ce que vous lui diriez à ce moment?
Alors c'est tellement improbable que,
oui, mais
c'est difficile.
Tout est possible dans cette émission. On peut.
Je lui dirais sans doute ce que des gens m'ont dit, c'est-à-dire il faut croire en toi, il faut avancer, il faut être sage à l'école, il faut bien travailler, il faut plein de valeurs comme ça. Et voilà, je pense que j'essaierai de gratifier et d'encourager.
Voilà. De croire en soi.
Oui.
Pareil, les yeux fermés, à Fezagen, vous pouvez croiser cette gamine de Pantin qui s'inventait des histoires, qui écrivait déjà très jeune. Bon, c'était pas il y a si longtemps, mais voilà, vous pouvez la recroiser, cette môme. Qu'est-ce que vous lui dites avec du recul? Celle qui croyait au kiff-kiff demain, justement, pour reprendre le titre de ce premier roman.
Moi, je pense que je lui dirais, je lui demanderais quelque chose, plutôt que je lui dirais quelque chose, je lui demanderais de pas laisser aux autres la responsabilité de ce qu'elle vaut.
C'est-à-dire?
C'est un peu une manière de dire de croire en toi aussi.
Ouais.
Voilà.
Donc c'est pas aux autres de.
De pas attendre, d'être légitimé en fait. Voilà.
Légitime.
Ouais.
Ouais, ça revient. Ouais. Hein. C'est du boulot, hein. C'est le travail de toute une vie. Hein. Les yeux fermés, Bernard Lahire. Ah oui. Ah ouais, quand on enquête les autres, c'est pas évident de se retrouver de l'autre côté.
C'est rare que j'enquête les yeux fermés.
Ah bon, pourquoi, tiens?
Ah, ce serait difficile, je pense.
C'est vrai, bah, peut-être que moins de censure, je sais pas. Ouais. Dans vos rêves les plus fous, tout est possible. Là, vous pouvez réveiller un célèbre artiste, auteur, écrivain, penseur, personnage historique, défunt, pour écouter ses rêves, pourquoi pas, pour partager un gueuleton imaginaire, pour... Ce serait qui?
Oh, ben... Il y a deux personnes qui me viennent à l'esprit et qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Un que je connais déjà un peu, c'est Franz Kafka.
Ouais.
Parce qu'il nous a laissé quelques dizaines de rêves, mais bon, il y aurait beaucoup de choses à faire. Il a un parcours assez étonnant pour moi. Et puis le deuxième, c'est un mathématicien qui s'appelle Alexandre Grothendieck. Et ce type est une énigme. Alors il y a des débuts de biographie le concernant. C'est vraiment quelqu'un dont les parents ont eu un parcours assez incroyable, qui avait vraiment pas tous les moyens au départ et qui était un génie des mathématiques. Mais évidemment, c'est parce que il a eu une histoire très très singulière.
Mais en quoi une énigme?
C'est une énigme parce que c'est quelqu'un qui va avoir une intuition mathématique très forte, qui va réinventer des choses mathématiques qui avaient déjà été construites alors qu'il avait, il était très très jeune. Mmh. Et quand il a trouvé les bonnes personnes qui lui ont dit « Écoute, il faut arrêter de refaire des choses qui ont déjà été faites », il s'est mis à faire des mathématiques, à inventer des mathématiques de manière assez surprenante. Aujourd'hui, beaucoup de mathématiciens doivent à Grothendieck, c'est un peu comme Einstein en physique. Donc là, je serais très très intrigué. J'aimerais beaucoup faire des entretiens avec Grothendieck, qui est mort malheureusement.
Un mathématicien, ouais. Et Kafka pour Bernard Lahire et pour Fezagen.
Il y en a plein qui me viennent à l'esprit, en fait, j'essaie de choisir.
Oh, mais vous pouvez en prendre plusieurs, hein, tout est...
Je pense que j'aurais envie de répondre Zola en premier.
Pas mal.
Et j'aurais envie de répondre aussi Luther King.
Ah oui, ça va, beau casting. Hein.
Ouais, beau casting et Dalida. Alors rien à voir, mais parce que j'aime beaucoup.
Ah, j'imagine le dîner à trois.
Mais ce serait comme une belle table. Ce serait une belle table.
Dalida, Zola et Luther King.
Ouais.
Et vous au milieu?
Et moi au milieu.
Et vous parleriez de quoi?
Ben, je pense du monde, de tout. J'aurais quand même justement une table éclectique.
Ça, c'est sûr. Est-ce que Dalida s'entendrait mieux avec Luther King ou Zola?
Mais je pense qu'elle se laissait durer tous les deux.
Ah bah c'est sûr. Hein, hein Bernard Lahire?
Bah ça je peux pas me prononcer.
Et Dalida et Kafka. Merci beaucoup, vous pouvez réouvrir les yeux. Bernard Lahire a joué presque le jeu. Merci beaucoup en tout cas pour ce voyage intérieur croisé. En parlant, c'était passionnant de ces histoires d'individus, de papiers froissés, d'idéaux de jeunesse. Pour continuer de rêver avec vous, il y a le Millennium Blues de Feza Higen et c'est chez Fayard, son dernier roman. Bernard Lahire, l'interprétation sociologique des rêves aux éditions La Découverte avec un second tome qui est prévu pour...
2019 ou 2020, enfin, on verra.
Il y a du boulot quand même.
Oui,
encore,
il y a beaucoup de travail
hein.
Encore. Ouais.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Beaux rêves, éveillés ou nocturnes. Merci. Bonne nuit. Dimanche prochain, nouvel rêve parti avec cette fois-ci l'écrivain Jean-Marie Gouriot et notre poil à gratter maison, Guillaume Meurice. Et bien sûr, oser rêver, l'imaginaire est notre plus grande liberté et personne ne peut nous l'enlever.